France Culture.
Moi, je me sens comme un homeboy, si tu vois ce que ça veut dire. J'écoute du rap, je tag, je fais des graves, je vois des mecs qui sont dans le mouvement, c'est cool.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On va aller du mur au livre aujourd'hui dans le Book Club, de la porte du wagon de métro à la page glacée d'un fanzine photographique. Aujourd'hui, on se demande pourquoi, comment éditer les tags et graffitis aujourd'hui. Cet art né dans la rue, pour la rue, en tension permanente avec sa propre disparition, absolument liée à l'éphémère, à l'action, au mouvement. Qu'est-ce qu'il en reste entre deux couvertures de livres? Assez rapidement, la question de la mémoire de cette pratique, d'abord très marginale, encore illégale, réprimée, mais ayant pénétré toutes les sphère ou à peu près de l'institutionnalisation, de la galerie d'art au livre donc. La question de sa mémoire s'est pourtant posée presque dès le début de cette culture. Quels en sont aujourd'hui les enjeux? Comment l'objet livre, son attention à la matière, à la typo, peut élargir ce seul enjeu mémoriel pour devenir un véritable et nouveau terrain de création? On en parle à l'occasion du Graffiti Book Club qui s'ouvre à Paris dans quelques jours et de l'exposition Brest sous les bombes. À voir dès demain. Chaussez vos meilleures paires de baskets, agitez l'aérosol, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Stanislas Fusi-Barreto.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes une figure emblématique de ce mouvement graffiti des années 90 en région pharisienne, en France, et puis de manière générale, vous êtes une figure emblématique de ce mouvement. Vous avez raconté ce mode de vie et d'expression dans un court roman, Les Princes du Dernier Wagon. Vous êtes à l'origine de ce salon du livre graffiti au cœur du festival Freestyle à la Villette, les 7 et 8 mars. Vous êtes même à l'origine de cette émission, parce que c'est vous qui m'avez fait coucou en disant, voilà, on organise ça, est-ce que ça vous intéresserait? Et ça nous a intéressé. Et donc merci beaucoup d'avoir toqué à la porte du Book Club de France Culture pour parler du Graffiti Book Club. L'idée de ce Book Club, vous allez y revenir, et de ce grand événement les 7 et 8 mars, c'est de mettre en lumière vraiment la vitalité de tout un champ d'édition autour du graffiti sous toutes ses formes, avec une cinquantaine de maisons d'édition spécialisées à l'échelle européenne. Parler des livres, mais aussi des fanzines, des revues. On va évoquer tout ça. Bienvenue à vous dans le Book Club.
Merci.
On est ravis de vous recevoir. Et bonjour Aurélien Harmini, vous êtes en ligne avec nous à Brest. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, bien sûr, je vous entends bien. Bonjour à tous.
Bienvenue. Vous répondez au nom d'artiste Capdo. Vous êtes en ligne donc depuis Brest parce que se prépare l'exposition Brest sous les bombes, dont vous êtes le commissaire scientifique. C'est au CAC Passerelle. Vous êtes un grand collectionneur d'aérosols, un éditeur, un artiste. Vous avez aussi signé Cap Nord, une publication retraçant l'histoire du graffiti dans le nord de la France dans une perspective historique et documentaire. Donc ces questions mémorielles liées au livre, c'est quelque chose qui vous parle, même si là, vous nous parlez depuis l'utilisation d'un autre grand médium qui est l'exposition. Alors, ça me paraît très important de commencer cette émission consacrée à l'édition du graffiti et du tag en évoquant l'histoire, même si on le fait rapidement, de ce mouvement. C'est impossible de parler de son édition sans de parler de son histoire, et on va le faire avec un extrait de film. Le film s'appelle Wild Style.
Graffiti ain't canvases, graffiti's on the trains and on the walls, and they ain't got nothing to talk about.
Taguer, ça se fait sur les trains, sur les murs. Eux, ils y connaissent que dalle. Être un graffeur, c'est prendre des risques. Courir des risques et te faire engueuler par les mecs du métro, par les flics, par ta mère et tes amis. Des conneries genre, tu vandalises les trains. Dans le temps, Butch et Case cartonnaient des wagons entiers. Peanut and Tracy étaient rois de la ligne D. Kane Wine bombait la ligne 7 en entier. Ils sont tout neufs, même les fenêtres. J'ai rien vu de plus récent. Des mecs qui matent les trains, c'est pas des graffeurs. Faut graffer, agir, se bouger, chourer le matos. Faut sortir tagué et se faire traiter de hors la loi.
Il va être beaucoup question de sortir, de bouger, du mouvement, de l'action aujourd'hui dans cette émission, Fusi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de partir des États-Unis quand même quand on parle de cet art du graffiti et du tag pour parler de la manière dont ce mouvement s'est développé en France?
Tout simplement parce que c'est primordial, c'est né là-bas et c'est né donc à la seconde moitié des années 60. Et c'est là où s'est créée cette culture, parce qu'il y a... Il y a comme un malentendu par rapport au mot graffiti. Donc il y a vraiment cette sémantique de dire on est en train de parler de graffiti comme si c'était une continuité avec ce qui avait été fait dans le passé à Pompéi, aux grottes de Lascaux ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, c'est une vraie rupture. Dans le milieu des années 60, c'est créé une culture où c'était la répétition du nom qui faisait qui créait quelque chose qui n'était pas donc dans cette continuité. Et c'est vraiment important de le faire parce que j'ai l'impression que les gens, en évoquant le graffiti, se réfèrent à ça. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est la naissance d'une culture autour de valeurs, de codes, qui se sont développés autour du nom, autour de la répétition du nom.
Quand vous dites autour du nom, pour qu'on comprenne bien, c'est que ce qu'on appelle les writers, c'est intéressant de les appeler les writers, parce que ça veut dire écrivain ou écrivant, et ici, autour de cette table, c'est des gens qui s'appellent comme ça depuis toujours, ils ont un nom qu'ils se choisissent, ils en ont même plusieurs fusils, donc ils peuvent éventuellement en changer en fonction de la manière dont ils ont envie de se jouer de ça, et c'est se choisir un nom et l'inscrire à répétition dans l'espace public qui fait naître ce mouvement, vous diriez ?
Complètement, complètement. Mais c'est aussi le fait qu'on crée autour de cette manière de communiquer des valeurs, des codes, quelque chose, une oralité, et c'est ça qui crée une culture en fait. Et c'est important, et c'est vrai, de souligner le mot « writers » parce que c'était du « writing », donc écrire, la notion d'écrire. Et dans cela, on s'oppose à la notion de graffiti qui est inscrire quelque chose sur une surface qui pouvait être plus lié à du dessin, à peut-être marquer un territoire, à faire des messages politiques. On est loin de ça, c'est totalement différent. Là, c'est vraiment marquer son nom comme une sorte de communication. Et à partir de là, ce qui est né, c'était marquer un nom simplement, ce qu'on appelait des single hits, qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des tags, juste des noms. Et en grossissant pour pouvoir se démarquer...
Et plutôt au marqueur, du coup, dans ce premier truc.
Au tout début, au marqueur. Puis ensuite, très vite, ils ont utilisé la bombe de peinture parce que c'était plus facile à utiliser. On a vu tout de suite que c'était quelque chose qu'on pouvait inscrire sur tous les supports. Et ensuite... c'est simplement passé à quelque chose de plus gros, des masterpieces, qu'ils appelaient des masterpieces, qu'on appelle aujourd'hui des graffitis, des pièces plus grosses, pour se démarquer des autres. Donc on part vraiment du postulat de marquer un nom et de le répéter d'une sorte de communication comme ça, que seuls les initiés comprennent et que seuls les initiés peuvent assimiler les codes, qui sont souvent des codes qui sont d'une culture orale. D'où le lien qu'on va pouvoir faire après à l'édition et très vite au fait que quand ça passe sur le papier, on fige cette culture orale sur du papier. Et c'est extrêmement important parce que là, au début, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les newspapers qui ont figé ça. Donc des gens extérieurs au mouvement qui ont, eux, utilisé le mot graffiti, alors que les writers utilisaient le mot writing.
Vous parlez du milieu des années 60. L'artiste, le writer, donc, qui s'exprimait ici en 1982 s'appelle Lee Quinones. 1980, c'est à peu près à ce moment-là qu'on peut voir naître ce mouvement en France. Ce sera à peu près à 20 ans d'intervalle?
C'est tout à fait ça. C'est fin 83. Après, les dates sont un petit peu... sont discutées parce que, comme je le dis, c'est une culture orale. Donc, à partir du moment où on recoupe pas, et ce que font, par exemple, un collectif comme Arcane, dont Capdo fait partie, ils recoupent justement toutes ces informations. Ils le font pour la France. Et donc, les informations, si on peut me détromper, mais c'est fin 83, début 84. Et
plutôt Paris et sa banlieue au départ?
Paris, oui, Paris avec le célèbre bandeau. Mais
c'est quoi le célèbre bandeau?
Ouais, parce que c'est une figure emblématique qui était aux États-Unis, qui est venue et qui a quand même amené avec lui cette culture-là. Puis ensuite, en 84, il y a donc des livres qui sortent, Subway Art et Spray Can Art, deux livres donc de Martha Cooper.
On va y revenir. Ouais.
Et on va y revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même en train de parler d'une création de ce mouvement en tant que tel. Donc, comme je l'ai évoqué avant, d'un mouvement qui se différencie par rapport à ce qui avait été fait avant de messages politiques, de messages de gang, au milieu des années 60 à Philadelphie, avec un mouvement qui se crée comme ça, où les gens se répondent et commencent à créer cette interaction et ces codes. Et ça se déplace très, très, très rapidement à New York, où là, ça continue avec les single hits et on commence à voir justement l'apparition de masterpieces, de graffiti, comme aujourd'hui on peut en parler, dans les années seulement 72-73. C'est là où ça commence à se développer. Et le témoignage de Lee, c'est une figure emblématique des années 80, où lui a justement dépassé tout ça pour créer des wall cars, donc des pièces qui sont sur tout le métro, tout le wagon du métro, avec des scènes qui étaient beaucoup plus élaborées et qui est donc connu spécialement pour ça.
On est au milieu des années 80 à Paris. Vous avez quel âge et comment est-ce que vous découvrez cette culture-là tout juste importée en France?
Moi, je suis de 75, donc j'avais une dizaine d'années. Je le découvre bien plus tard, à la fin des années 80, au collège, dans une lointaine banlieue. Et je vois ça et tout de suite, ça m'attire et je me mets à commencer.
Qu'est-ce qui vous attire?
Je pense que c'est c'est une culture parallèle, cachée, où justement il faut découvrir les codes, c'est pas tout... et puis il n'y a pas internet, tout ça, donc ça met du temps, et on est un outsider, on essaye de comprendre ce qui se passe, et puis il y a le risque, bien sûr, il y a l'adrénaline, il y a le fait de pouvoir rentrer dans une sorte de communauté secrète quelque part, et quand on a 14 ans, c'est quand même important, et puis il y a le côté créatif, et ça peut... Il y a ce côté créatif, c'est ça qui est intéressant dans la globalité du graffiti, c'est qu'on a un côté créatif, on a un côté sportif, on a un côté de défi. Il y a plein de choses, et plus on le pratique, plus il y a d'autres aspects qui se découvrent, comme découvrir la ville, découvrir l'architecture, découvrir la photographie. Toutes ces choses qui s'imbriquent et qui font que quand on le pratique sur la longueur, sur des dizaines d'années, il ne s'agit pas simplement de marquer un nom, c'est beaucoup plus.
Et c'est ça qu'on va aussi retrouver dans tout ce qui est édité aujourd'hui et dont vous célébrez la vitalité dans ce salon du livre, Fusil, c'est que bien sûr il y a les blases, bien sûr il y a les noms, bien sûr il y a toute la culture des crews, des groupes qu'on va repérer comme ça dans les éditions, mais il y a la pluralité de cette culture qui va avec et que est-ce qu'on peut l'englober, parce que vous n'avez pas prononcé le mot jusqu'à maintenant, dans la culture hip-hop qui débarque au même moment, est-ce que vous embrassez ça ou est-ce que vous en faites vraiment une quelque chose à part?
C'est vraiment selon les périodes. On ne peut pas le mettre de côté. Aujourd'hui, c'est un peu de bon ton de dire on le met de côté, ça ne fait pas partie de la culture hip-hop. Moi, je l'ai connu à travers la culture hip-hop, à travers les Zoulous, à travers Radio Nova, toutes ces choses-là qui étaient à la fin des années 80. Et moi, je l'ai connu à travers ça. Et en étant une sorte d'intégriste de ça à l'époque, pour rien, juste parce qu'on est super passionné, on y va à fond, on est hardcore, et c'est comme ça. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça a été englobé là-dedans. Ça a créé quelque chose. Ça a permis que l'Europe et le monde entier comprennent cette culture graffiti. Mais la culture graffiti est beaucoup plus riche et à sa place, en fait, à côté du hip-hop. Ça a été un petit peu le parent pauvre du hip-hop quand même. C'était ceux qui faisaient les covers des albums. C'est ceux qui peignaient derrière. Mais en fait,
mais c'est aussi parce que pendant très longtemps, ça n'a pas généré d'argent. Alors que la musique, la danse, les vêtements, petit à petit, ont trouvé une place sur le marché. Ce qui a été très différent. Et l'économie dont nous allons parler aujourd'hui, des fanzines, des livres, etc., c'est une économie qui ne brasse pas énormément d'argent. Vous parlez du témoignage oral et de la manière dont c'est intéressant peut-être d'en faire les prémices des publications. Pour ce qui est de votre travail, Aurélien Amigny, est-ce qu'on est obligé de se poser justement la question des récits, chose que vous faites aussi, Fusil, dans un podcast où des acteurs, des actrices, beaucoup des acteurs de ce mouvement-là témoignent à votre micro en racontant leur parcours et leur rapport à cette culture du graph et du tag. C'est aussi une étape incontournable dans votre travail, Aurélien Amigny?
Oui, oui, moi c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Pour revenir un peu à ce que disait Fusil, c'est vrai que les débuts du graffiti sont indissociables du hip-hop, ça c'est une évidence. Mais très vite, on s'est rendu compte que d'autres personnes écoutaient d'autres musiques, qu'il y avait peut-être que le graffiti était connu avant d'être pratiqué en France, parmi les milieux des beaux-arts ou autres. Il y avait déjà on a retrouvé beaucoup d'articles avec Arcane dans les magazines de beaux-arts, de photographes ou autres qui vont à New York, qui voient le phénomène, mais ils n'ont n'importe
quoi à voir avec le hip-hop.
Ouais, ils ne le reproduisent pas. Non, c'est vraiment, on a retrouvé des documents qui datent de 1972, 73, où des photographes se rendent déjà là-bas. On a retrouvé des articles des mêmes années. Donc, il y a 10 ans de latence avant que ça revienne vraiment avec le hip-hop, dans un package, on va dire, un peu marketing, et qui est l'explosion en France. Mais, pour en revenir au récit, oui, il est indispensable parce que c'est une culture qui a 50 ans, 60 ans presque. Mmh. Et qui est encore considéré comme assez juvénile, donc ça peut avoir des bons côtés, mais ça joue aussi sur le dédain un peu du monde culturel à notre égard.
Et donc, juvénile à quel sens ? C'est-à-dire qu'on se figure forcément que les gens qui vont taguer ou graffer, ils ont 25, alors qu'en fait, sans aucune insulte, ils en ont plutôt 55, en tout cas ceux qui ont commencé à l'époque.
Oui, c'est toujours une connerie de jeunesse, forcément. C'est assimilé à un geste enfantin, quelqu'un qui n'est pas adulte, qui n'est pas inséré dans la société. Mais c'est ce que disait aussi quand on parlait de New York. Faut bien avoir en tête que les writers de New York ont en général entre peut-être des fois 10 ans jusqu'à 15, 20 ans maximum. Et à 18, 20 ans, ils arrêtent parce que pour beaucoup, ils font l'armée. Ils sont appelés au Vietnam, notamment à l'époque. C'est très important dans le milieu graffiti new-yorkais. Et à 18 ans, ils décrochent. Ils ont un job, ils ont un enfant. C'est une autre époque. C'est une époque où les gens étaient adultes beaucoup plus rapidement. Donc ça joue aussi de ce côté-là, du côté juvénile du graffiti. Et puis, c'est aussi un geste, c'est l'énergie de la jeunesse, c'est ça qui est intéressant aussi.
Mais alors donc quand vous dites que c'est primordial de se poser des questions de mémoire parce que c'est une culture qui a 50 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut quoi ? Il faut aller contre l'idée d'un mouvement pris dans l'énergie de la jeunesse et dire oui, peut-être il y a encore ça pour l'actualité de ceux qui graffent et qui taguent encore, mais on doit raconter et on doit le faire avec les moyens de l'édition les dizaines d'années de ce mouvement, c'est ça que vous sous-entendez ?
Ah oui, moi j'ai à cœur de. Alors moi j'ai toujours eu à cœur la transmission. J'ai toujours été beaucoup dans la transmission avec la jeunesse. J'ai tenu les magasins de bombes de peinture. J'ai été assez actif sur les forums, etc. Et aussi dans la rue. J'ai toujours aimé l'oralité. Fusil parlait beaucoup d'oralité. C'est une culture qui a été très très orale pendant longtemps parce qu'on avait 2-3 livres à se mettre sous le.
C'était quoi les livres en dehors du livre de Martha Cooper qu'on va évoquer dans un instant, mais des livres qui racontaient ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous lisiez ? Qu'est-ce que vous regardiez pendant longtemps ?
Alors du coup, Subway, Art, Esprit, Canard qui ont été cités, c'était les bibles ultimes du mouvement qui ont vraiment posé les bases à tous les niveaux esthétiques et narratifs. Et après, en France, on a eu Paris Toncar qui est arrivé assez tôt, qui est arrivé en 90-91, et le magazine Intox qui était disponible en kiosque et qui a permis de faire rayonner le graffiti en France. Tous les provinciaux, notamment dans l'exposition de Brest par exemple, ou un autre livre sur la scène d'Orléans auquel j'ai participé un petit peu récemment, montre ça, c'est que la diffusion via les kiosques du magazine Intox ont fait exploser le graffiti en France. Et donc ça a été aussi les deux pierres angulaires du début du graffiti en France. Et puis après, il y a eu un petit creux pendant 10 ans, 15 ans, c'était des productions qui étaient beaucoup plus underground, c'était de la niche, quoi. Il fallait vraiment être introduit, connaître les bonnes personnes pour avoir un exemplaire.
Et puis, c'est-à-dire que ça ne se trouvait plus en kiosque ?
Il y avait les bombes shops qui ont existé dès le début, donc les magasins de bombes de peinture où se procuraient les bombes de peinture, parce que même si le vol était très important, il y avait des commandes publiques, etc., qui fait que des magasins ont commencé très rapidement à exister pour distribuer des bombes de peinture moins chères. Et on y trouvait donc des livres, des fanzines, des mixtapes de rap, etc.
Ou Al, notamment, non ? Il y en avait un qui était assez à Paris, dans le quartier.
Ticaret.
Ouais, c'est ça.
Ticaret,
ouais.
Qui était plus vers Stalingrad et après qui a eu aussi au Al.
Et donc là, on trouvait et peinture et les premières formes d'édition qu'évoquait Aurélien Amigny.
Complètement. Intox, même, il y avait eu la Zulu Later, il y avait des choses qui étaient. Intox, ça n'a pas été forcément lié au hip-hop. Après, il y avait les choses, donc Zulu Later et tout ça, qui étaient plus liées au hip-hop. Et Aurélien pourra me corriger si je me trompe. Mais Intox, ça a été extrêmement important parce que moi qui l'ai vécu, c'était comme une pépite qui arrivait comme ça, où justement on avait eu que Subway Art et c'était l'école américaine. Et là, on avait la France, on avait l'Europe et on tombait sur quelque chose qui était à côté de chez nous. Et en même temps, il y avait cette contradiction qui a duré pendant très longtemps du fait que, eh bien, moi, j'ai jamais vu ces mecs dans la rue. Donc, est-ce qu'ils sont faux? Est-ce que cette promotion qui est faite à travers le magazine, le zine ou quoi que ce soit, fausse une certaine réalité? Et il y a eu des conflits comme ça entre writers, dans la communauté même, de se dire, est-ce que justement ce nouveau support qui est la publication est un support qui triche sur la réalité. C'est vraiment quelque chose qui a été intense.
Et qu'il faut la hiérarchie, parce que vous racontez totalement. Aussi très bien, Stanislas Barreto, que là, on parle de valeurs très positives, d'énergie, etc., mais il y a aussi beaucoup de concurrence sur la place qu'on occupe, éventuellement même des bagarres. C'est quand même un monde aussi de la nuit, de la marginalité. Donc, il y a des choses très belles de camaraderie, d'entraide, de course, de joie. Et puis, il y a des choses un petit peu moins joyeuses. Mais il y avait quelque chose aussi dans le fait de figurer dans ces premières parutions qui commençaient à jouer des nouveaux équilibres de hiérarchie dans les noms qui circulaient dans la ville.
Complètement. Et en même temps, ça fausse effectivement une réalité. Et ça n'a pas été fait de manière concrète ou le faire pour le faire. C'est juste que quand on a des potes à côté, on va poster leurs photos, et ce qui est totalement normal. Quand il y a, comme aujourd'hui, des centaines de zines qui sortent tout le temps, on a quand même une globalité.
Variété, voilà. Une vraie
à l'époque, quand il y a eu un zine, c'est normal que 99% de la communauté n'est pas dans ce zine-là. Donc, il y a 1% qui est content et le reste qui fait un peu la gueule.
Aurélien Amigny se joue immédiatement dans les publications, que ce soit des zines, que ce soit des magazines ou des livres plus d'art et de photographie. Une institutionnalisation, quelque chose qui vient légitimer ce mouvement culturellement parlant ?
Oui, comme pour toutes les contre-cultures, il faut que ce soit absorbé par le système, que ce soit assimilé, étiqueté, réintégré dans l'histoire normale entre guillemets, parce que le graffiti a quand même très très longtemps, même encore maintenant souffre souffre clairement d'une mauvaise image, encore maintenant, surtout le tag. Et Fusil et moi sommes très, très attachés au tag et à le montrer, parce que c'est souvent par le graffiti que les gens entrent dans la culture, les gens
et l'acceptent, ouais.
Et l'acceptent, mais le tag reste vraiment l'enfant maudit, le vilain petit canard, et nous, on a justement à cœur avec Fusil de remettre la balance un peu équilibrée et de montrer que le tag est tout aussi important que le graffiti. Donc, on a à cœur de le magnifier via l'édition.
Et alors justement, vous avez tous les deux parlé de l'importance, et peut-être on va en discuter, de la place du grand livre Subway Art et du travail de la photographe Martha Cooper en 1984. Peut-être qu'avec ce témoignage de Martha Cooper, on peut parler du rôle joué par le livre dans ce phénomène ambigu de légitimation.
Mon introduction remonte à l'époque où j'étais photographe pour le New York Post et que je prenais des photos dans la rue pendant mon temps libre. Par hasard, un garçon de 14 ans m'a montré son carnet de croquis de graffiti. C'est là que j'ai réalisé que les jeunes planifiaient et dessinaient des motifs pour les reproduire sur les rames de train. Je n'avais jamais imaginé qu'il existait une activité aussi organisée. Grâce à ce garçon, j'ai rencontré Dandy, le roi d'un des réseaux, qui m'a expliqué plus en détail comment ça fonctionnait. J'étais fasciné par tout cet univers. Par l'intermédiaire de Dandy, j'ai rencontré beaucoup d'autres graffeurs. Dandy m'a emmené dans les dépôts et j'ai passé environ 8 heures, une nuit, à le regarder réaliser une œuvre recouvrant une rame entière de haut en bas. C'était fascinant et j'ai commencé à couvrir différents aspects de la scène graffiti. Ce n'est qu'après que Dandy a fini son œuvre que j'ai compris qu'il me fallait une photo du résultat final. Dans une gare, même si vous restez là à les regarder pendant des heures, vous ne faites que les voir défiler à toute vitesse. Même si vous les voyez s'arrêter, ce n'est pas comme les voir dans un livre. Nos photographies sont devenues un témoignage permanent de quelque chose qui, dans 20, 50 ou même 100 ans, sera extrêmement rare et exceptionnel.
On entend dans la voix de la grande photographe Martha Cooper la tension qui existe entre le mouvement, l'éphémère, l'action, le collectif, la disparition qui est prise dans cet art-là du tag et du graffiti, et ce que produit la photographie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler l'un et l'autre de la place, plus précisément, de ce livre-là, Subway Art, dans les enjeux d'édition que nous essayons là de discuter ensemble en 2026?
Il y a une chose importante d'abord, c'est Dondi, c'est pas Dandy, donc il y a une erreur de traduction. C'est un artiste extrêmement important de cette époque-là qui est décédé et assez jeune dans ce mouvement et qui a marqué de par son style. Donc c'était important de remettre son nom. Ensuite, ce livre a eu un impact sur toute l'Europe. Et
c'est quoi ce livre ?
C'est donc un livre donc de Martha Cooper et de
Henri Chalfant.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont donc deux photographes Martha Cooper, qui était plus une photographe peut-être pas de guerre, mais
de la presse en tout cas.
De la presse, donc officielle et tout. Et ils ont découvert ce phénomène, ils ont voulu en témoigner. Mais comme souvent, ce sont des acteurs extérieurs à ce mouvement-là. À l'époque, il y avait donc pas, en 84, il y avait très peu de gens du mouvement qui avaient les moyens pour pouvoir produire des magazines, des zines ou quoi que ce soit. On parle de gens, effectivement, comme le disait Aurélien, qui étaient très jeunes à cette époque-là. Mm-hmm. Donc, des gens extérieurs, avec des codes extérieurs, qui ont témoigné de ce qui se passait à cette époque-là, qui était vraiment florissante, parce qu'on n'était plus dans ce qu'étaient les single hits, donc ces tags qui sont communément admis comme sales ou qui sont moins attirants. Et là, on était sur des pièces élaborées avec des personnages, des références à la culture populaire.
Et les croquis préparatoires qu'elle évoque Martha Cooper, oui, voilà.
Voilà, donc on est déjà dans une évolution qui est plus acceptable par le grand public. Ensuite, il témoigne de ça, il le distribue à grande échelle et c'est l'explosion dans le crâne de tous les adolescents européens, dont moi compris. Je me rappelle du moment où la première fois je l'ai vu. Et on se dit, bon, voilà, c'est ça le graffiti. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en disant, c'est ça le graffiti,
ça fixe
un truc qui vient de nulle part, en fait, parce que c'est un témoignage d'un moment que eux ont vu, à un certain moment, ils ont décidé, par des choix éditoriaux, de montrer ces photos-là. Mais moi, un ado de 14 ans qui voit ça, c'est eux la vérité. La vérité se trouve dans ce livre, c'est la Bible. Et Aurélien l'avait évoqué comme la Bible. C'est vraiment la Bible pour une époque et une génération, c'est ça. Donc on se le passe, on regarde, on copie les lettres et on établit aussi les règles qui ensuite qui existent et que, comme on le disait, c'est de l'oralité, mais à force de regarder, on arrive à les interpréter, à les comprendre, à entendre aussi autour de nous comment ça se passe. Et ces règles, c'est contrôler sa ligne, par exemple, faire les intérieurs, les extérieurs, faire les plus grosses pièces, être partout, toutes ces choses-là qui font qu'on se crée un univers qui est basé sur ce livre. Donc, c'est extrêmement fort parce qu'on peut le... On peut penser à cet aspect peut-être religieux de ça. Une lecture fait que ça transforme sa vie. Et ça a été le cas pour moi et pour plein d'autres gens.
Il faut attendre quelle période, Aurélien Harmignie, pour que, contrairement à ce que vient de décrire Stanislas Barito, il faut une esthétique extérieure, un regard extérieur posé sur un mouvement en particulier qui va donner ce livre Bible Subway Art. Il faut attendre quel moment pour que ce soit une sorte de poussée éditoriale venue de l'intérieur. Moi, je pense à une sublime exposition que j'ai vue récemment aux rencontres photographiques de Arles, où là, d'un seul coup, c'était retrouver des photos faites dans les halls d'immeubles, dans les raids RER, où on voyait bien que c'était des photos qui étaient faites pendant la course, pendant la nuit, dans le mouvement. À partir de quand est-ce qu'il y a une motivation de l'intérieur du mouvement pour produire du document ?
Alors, ce qui est intéressant, je vais juste revenir sur un point sur Subway Art, mais qui va me permettre de faire la transition avec votre question, c'est que Subway Art, c'est une maison d'édition londonienne qui accepte de l'éditer, parce que personne ne veut l'éditer aux États-Unis, c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les États-Unis, alors, sans être trop péjoratif, mais sont assez à la traîne au niveau de l'édition, et sont pas du tout emparés de leur propre culture. Donc c'est surtout l'Europe qui va en parler, de la culture new-yorkaise, via les galeries, via des galeristes italiens, suisses ou hollandais. Et donc pour en revenir à la question, il va falloir attendre pas mal d'années, parce que dans les années 90, il y a un réseau européen qui se met en place, même un réseau mondial d'échange de photos, d'échange de fanzines, etc., qui se met en place très très rapidement par voie postale.
Mais c'est ça, il faut bien se dire, il n'y a pas les réseaux sociaux où on peut poster en deux secondes ce qu'on a tagué il y a deux heures, il y a une minute ou avant-hier.
Voilà, exactement. Oui, on est dans une temporalité qui est tout autre et qu'il faut expliquer, c'est vrai, aux gens plus jeunes qui nous écoutent. On est vraiment dans une temporalité totalement différente, avec des téléphones fixes, des points de rendez-vous, des magazines, quand on parlait d'Intox tout à l'heure, les magazines, on attendait le mois prochain, on égrenait les jours, tellement on était excités d'attendre le prochain numéro. C'était vraiment un temps d'attente et une patience qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui.
Et on envoyait même parfois ces photographies avec l'espoir qu'elles puissent être reproduites dans le magazine du mois suivant.
Exactement, et c'est là qu'on en revient, par exemple à l'exemple de Paris Tankard ou à d'autres publications partout en Europe, ça a été le même schéma. C'est que un photographe, notamment par exemple aussi pour Subway Art, un photographe va photographier ce qu'il y a près de chez lui en général. Mm-hmm. Donc, Subway Art, c'est ce qui avait été reproché aussi au livre, c'est qu'il s'était concentré sur le Bronx et sur la ligne aérienne. Donc New York étant une ville immense avec énormément de lignes et donc énormément de graffeurs, beaucoup de graffeurs n'avaient pas figuré dans le livre, et donc ça a été des batailles de chapelle pendant très longtemps. Pareillement, pour Paris Tankard, les banlieusards n'étaient pas dedans, certains arrondissements, etc. Donc ça a toujours été des guerres intrinsèques et intestines au graffiti. Et depuis, on va dire, 10-15 ans, l'avènement d'Internet, l'histoire s'est réécrit constamment de manière évolutive, de manière empirique. Et avec les équipes d'Arkane notamment, ou plein d'autres gens, avec Nicolas Xelet et Patrice Poche, nous sommes en digging, ce qu'on appelle le digging, donc c'est creuser
recherche,
les archives, s'enfoncer dans les archives des photographes, des municipalités, des mairies, des musées, etc., pour aller chercher la matière et s'approcher un peu plus, alors la vérité n'existe évidemment pas en histoire, mais s'approcher le plus possible, sourcer le plus possible les photos, parce que comme c'était une culture orale, et qui est une culture très égotique, les gens ont eu tendance pendant longtemps à raconter leur version de l'histoire, à avoir des dates très approximatives, qu'on reculait régulièrement pour asseoir sa domination. Et nous, on tape un peu dans cette fourmilière-là depuis 5-10 ans avec Arkane, en mettant un peu les choses au clair et en datant, en sourçant très précisément les choses. Donc ça permet de voir exactement ce qui s'est fait. Mais on est sans cesse surpris, on trouve des choses tous les jours. Là, on a le vernissage à 18h et encore tout à l'heure, à 13h30, on a trouvé des documents incroyables.
Ah, c'est fou. Pour l'exposition, ouais. Donc Brest sous les bombes.
Pas forcément pour Brest, mais ce soir, typiquement, au vernissage, on va rencontrer des artistes qui vont nous dire « Mais attendez, ça, c'est telle date. » un tel qui avait fait un truc en 82. Enfin, c'est constamment remis en cause, c'est l'histoire, hein, tout simplement. Donc, c'est très
intéressant. Oui, puis ce qui est très intéressant, c'est vraiment la rencontre du continent éditorial et du monde du livre et d'une mémoire vivante, orale, et des personnes qui ont envie de témoigner, envie de raconter. Moi, j'ai trouvé très émouvant d'entendre Éclat, par exemple, à votre micro, Fusil, raconter vraiment des parcours de vie et comment est-ce que le tag, le graffiti viennent, oui, à l'intérieur d'un mouvement même d'une existence. Est-ce qu'on peut dire, Aurélien Arminy, qu'il y avait au même titre l'enjeu d'être partout, d'être sur tous les murs, d'être sur tous les wagons, de placer vraiment l'enjeu de mettre son nom partout? Est-ce que ça s'est transposé sur le livre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu d'exister dans les publications, d'exister dans les livres?
Ah oui, ça reste toujours très très prégnant. Il y a les réseaux sociaux évidemment qui sont pris d'assaut et où chacun essaie d'écrire sa propre histoire. Et puis il y a eu, comme c'est une culture qui a 50, 60 voire 70 ans, il y a des gens qui ont, notamment chez les New-Yorkais, chez les pionniers, des gens qui ont 70, quasiment 80 ans. Donc il y a eu une grosse vague ces 10-20 dernières années de sortie de livres qui est une espèce de raz-de-marée qui est très difficile à suivre quand on est passionné comme moi et qu'on aime beaucoup les livres. Donc ma bibliothèque a grossi de manière exponentielle. Et évidemment, la bataille du graffiti s'est transposée à l'édition et tout le monde essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça reste tout de même très, très bon enfant. Il y a ce qui, vous parliez de violence tout à l'heure, de bagarre, etc. Ça, c'est sûr qu'on peut pas le nier qu'il y en avait beaucoup dans le graffiti. Mais heureusement, ça s'est pas trop propagé au monde de l'édition et tout le monde est très, très content qu'il y ait des initiatives de toutes parts qui fleurissent. Donc,
est-ce que c'est aussi excitant de figurer dans un livre que de figurer sur un mur, Stanislas Barreto?
C'est pas du tout la même chose, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un travail de communication quand même, ce qu'on fait depuis le début, et plus j'y réfléchis, et plus je penche vers là. Quand on prend par exemple l'exemple de Cornbread, qui était donc à Philadelphie dans la seconde moitié des années 60, et on revient pareil sur ce qui est dit par rapport à l'histoire, parce que lui se met extrêmement en avant par rapport à ça, donc il écrit une histoire qui a été crue pendant très longtemps. Il utilisait comme méthode pour communiquer son nom, il utilisait les newspapers, les news, c'est-à-dire qu'il faisait les choses qu'il savait qui allait être relayé par les news. Donc il allait taguer dans le zoo de Philadelphie, il allait taguer dans des endroits où il appelait la presse, il avait le numéro, il m'expliquait dans un podcast où justement il appelait les reporters pour leur dire voilà, j'ai fait ça, parce qu'il avait totalement conscience que en diffusant son nom dans les journaux, il sera plus connu. Et c'est pareil comme ça, je travaille sur un projet sur...
Oui, en fait, ça se déplace. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu veux mettre ton nom sur un mur, sur un wagon, puis en cherchant cette visibilité-là, qui est au cœur de cet art-là, on va chercher les endroits où la visibilité est accrue, donc magazines...
C'est ça.
Et médias, aujourd'hui, les journal, gens, voilà. Réseaux sociaux.
Exactement. Mais avant l'heure, c'est ça qui m'avait choqué. C'est qu'on parle du milieu des années 60, où le type se projetait de cette manière-là. Et aujourd'hui, c'est simple. On fait des livres. Ouais. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin d'appeler une maison d'édition, tous les gens font leurs livres par eux-mêmes. Donc, ça crée cette richesse énorme qui passe par le livre. Et pour répondre à la question, non, ce n'est pas la même chose. On parle de choses différentes. Mais pour faire un livre, il faut avoir du contenu.
Donc contenu, il faut bien créer. Il aura fallu quand même aller dehors, aller taguer et aller graffer. L'édition aujourd'hui, si on essaie de faire une photographie par exemple de tous ces gens qui vont être réunis au Salon du Livre dont vous êtes à l'initiative, Fusil, c'est plutôt des éditions qui rassemblent, comme on l'entendait dans la voix d'Aurélien Arminy, des photos des années 80, des années 90, des années 2000, ou de ce qui se fait aujourd'hui, des tags d'aujourd'hui, des graphes d'aujourd'hui?
C'est là où il y a vraiment une richesse énorme, c'est qu'aujourd'hui, le médium est pris d'assaut par tout type de personnes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être comme Aurélien, qui vont être des diggers, qui vont chercher des images des années 80, des années 60. Là, dernièrement, il y a Martha Gordon Clark qui a sorti toutes les archives. Bon, il est décédé, donc sa succession a sorti toutes les archives de 72-73 où il a pris en photo, justement, à New York, toute une ligne pendant quasiment une année. Et c'est vraiment une matière incroyable pour l'histoire. Mais en même temps, il y a des gens qui vont écrire des romans, il y a des gens qui vont écrire des essais. Il va y avoir des gens qui vont poster des photos de n'importe quelle période. Et c'est là aussi que, artistiquement, c'est intéressant parce qu'il y a tous les points de vue.
Et alors, on a envie quand même d'entendre un extrait d'une forme qu'on n'a pas du tout évoquée, qui est la forme du récit, voire la forme du roman. C'est un texte que vous avez signé, Stanislas Barreto, Les princes du dernier wagon. Et là, on est à la première pression, la première bombe.
«
La peinture noire jaillit dans un soupir vaporeux et révèle la calligraphie enfantine de mon pseudo. Le trait coule, là où ma main inexpérimentée s'attarde, la rigole suit un instant les aspérités du mur, avant de se figer dans un interstice. Je jette un regard derrière moi, pour lire l'acquiescement du groupe. J'ajuste la distance et je trace sous mon nom trois lettres, au sens mystérieux, qui, en cet instant, signifie tout pour moi. Trois lettres qui disent mon adoubement et pour lesquelles je serai toujours prête à me battre. Trois lettres qui me plongeront dans l'illégalité. Trois lettres qui me sauveront de l'ennui.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un book club consacré à l'édition de l'art du tag et du graffiti. On entend à l'instant Stanislas Barreto un extrait des Princes du dernier wagon. On a parlé beaucoup de livres de photographie, on a beaucoup parlé de fanzines, on a beaucoup parlé d'images en réalité. En l'occurrence, il n'y a pas une seule image dans ce livre-là. Il y a du texte, il y a du récit. Quelle est quelle a été la motivation de l'écriture de ce texte-là? Et quelle est la part dans le monde de l'édition liée au tag et au graffiti donnée au pur roman, au pur récit?
Il y a très peu de récits, de romans. En tout cas, il y en a très peu. Il y a Comer qui a fait quelque chose. Il y a New York, Nova York qui a fait quelque chose de super intéressant et que j'invite les gens à aller découvrir. Mais c'est très, très rare. Et justement, vu que je suis aussi un passionné de lecture, et c'est ce que je disais avant l'émission, j'écoute justement le book club dans mon atelier à chaque fois. Et vraiment, la lecture est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Donc, au bout d'un moment, c'était quelque chose qui paraissait une sorte d'évidence de le mettre sur le papier. Et il y avait quelque chose qui était aussi évident, c'est que j'ai toujours pensé que le moment de le faire, l'action, était beaucoup plus importante que le résultat. Et je pense que c'est la même chose pour plein de gens qui pratiquent le graffiti. C'est-à-dire le moment qui fait qu'on marque son nom illégalement, le moment où on voit ce qu'on a fait, tout ça, cet instant-là, c'est ça qui pour moi est la force du graffiti.
Et vous l'avez retrouvé dans l'écriture ?
Tout à fait, c'est ce que j'essayais en tout cas de transmettre aux gens qui ne pratiquent pas et qui voient ça d'une manière extérieure, qui voient ça peut-être comme une pollution ou quelque chose pour décorer un appartement, que c'est ni l'un ni l'autre et que c'est beaucoup plus profond, que ça amène à plein de sentiments qui sont finalement juste humains, qui se retrouvent chez chacun, mais qui ont un lien avec quelque chose parfois de primitif, parfois de l'instinct, parfois de juste de l'expression. Et il y a plein de choses qui se réunissent là-dedans et qui montrent justement que le graffiti, c'est pas seulement ce que vous pensez que c'est.
et qui sont travaillés vraiment dans une forme là de récit, les princes du dernier wagon. On l'entendait dans le petit passage que j'ai lu, on lira un autre extrait dans un instant, l'importance du mot qu'on tague, l'importance des lettres. Vous dites trois lettres qui disent mon adoubement et pour lesquelles je serai toujours prêt à me battre, trois lettres qui me plongeront dans l'illégalité, mais trois lettres qui me sauveront de l'ennui. Ce qui fait aussi quand même le continuum entre ces fameux writers, donc les écrivains, les écrivains, et le travail d'écrire une histoire, Stanislas Barreto. Il y a quand même l'idée que tous ces gens qui vont poser leur nom sur les murs, sur les wagons, quelle que soit la forme qu'ils donnent à ce tag ou à ce graphe, c'est des gens qui écrivent. C'est des gens qui ont un rapport avec le nom, le mot. Alors, c'est peut-être pas tous des grandes lectrices et des grands lecteurs, mais c'est quand même des gens qui ont un rapport avec le fait de nommer, non ?
C'est plus la lettre, quelque part. Ouais. C'est la lettre. Et si on veut être vraiment honnête, c'est plus la calligraphie et la lettre. Donc, on s'éloigne quand même du contenu de ça. Pour ce qui est de la partie que vous avez lue, le contexte, c'est plus les trois lettres, c'est plus le crew.
L'appartenance.
C'est pour ça que quand on pose pour la première fois pour un groupe, c'est justement l'appartenance et le fait qu'on est validé pour faire ça, et c'est un moment qui est fort. Donc ça, c'était ce moment-là qui est fort et qui est souvent fort pour les gens qui rentrent dans des groupes. C'était ça. Après, oui, le mot, je connais. Il y a des gens, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le mouvement graffiti est très complexe, il y a de tout dedans. Il y a des gens qui ne lisent jamais, il y a des gens qui sont fous de lecture, c'est comme le monde, c'est tout, on est tous différents. Donc non, je pense qu'on est plus sur la lettre quand même.
Et je pense que c'est assez intéressant d'ailleurs de parler de la lettre, parce que ça peut faire un lien avec ce que c'est que éditer. Éditer, c'est se poser des questions de typographie, c'est se poser des questions de placement des lettres et des textes dans des livres, de mise en page. images. Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose, c'est un continuum direct entre ce qui se passe sur le mur et ce qui se passe quand on pense à l'éditer, quand on pense à fabriquer.
C'est très intéressant cet aspect-là parce que du fait que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'éditer un livre, qu'on a toutes ces facilités-là, on a de tout. On a des gens qui ont un background dans l'édition, dans le graphisme. Pour ma part, j'ai eu une ouverture sur ce qu'était le graphisme il y a une vingtaine d'années à travers un livre un livre que j'avais sorti avec un éditeur suisse qui s'appelle Patrick Frey, qui est un éditeur d'art assez connu et qui était sur mes intérieurs de train, des photos de mes intérieurs de train lacérés ou tagués. C'était que de ça. Les intérieurs de train orange des double étages de la ligne Paris-Saint-Lazare. Et j'avais ouvert mon esprit sur justement comment mettre en valeur des photos, comment on fait un livre et quels sont ces codes, parce que ce sont des codes qu'il faut apprendre. Bien et sûr. Je les connaissais tout simplement pas. Donc pour en revenir à l'édition, aujourd'hui moi je travaille avec Jade Hussein qui travaille avec moi pour Tag Édition et qui s'occupe du graphisme. Et on essaye d'avoir une vision assez pointue de ce qu'on veut montrer, de quelle manière on veut le montrer justement pour embellir et pour mettre en valeur des choses qui sont communément admises comme laides. Parce que pour moi, la beauté, elle peut résider justement dans un siège de train lacéré, parce que ce sont des photos, c'est de l'art, c'est de la sensibilité. Et ça, je veux le mettre en valeur avec les codes des livres d'art.
Et du coup, ça donne des objets éditoriaux extrêmement chiadés, finalement assez précieux dans leur facture, précis aussi dans leur facture, qui pour certains utilisent des processus de fabrication éditoriale qui sont très élaborés. Je pense par exemple à ce petit objet-là. Bon, il est magnifique, quoi. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de Fuzzy World?
Fuzzy World, c'était justement pour essayer de montrer un petit peu mon univers qui part dans énormément de directions puisque je suis très curieux et je fais notamment du tatouage depuis 20 ans, pareil. Et je voulais essayer de montrer mon univers à travers ça, mais pour parler de l'objet, c'est une sorte de brique qui se met dans un étui avec...
Comment on appelle cette reliure?
Reliure ouverte, tissée. Et Jade pourrait parler mieux de ça, mais effectivement, on passe énormément de temps pour essayer de créer des objets éditoriaux, des choses. Chaque publication que nous sortons, des revues tag, sont tous avec un format différent, avec une réflexion derrière qui s'adapte au contenu, tout simplement.
Et ce qui est très intéressant, c'est que, on va dire, la puissance esthétique, l'énergie esthétique qui est propre au mouvement du tag et du graffiti se retrouve comme traduite, d'une certaine manière, comme si elle avait déménagé dans les livres. Ça, c'est un enjeu important, parce qu'on parle beaucoup du dehors, du mouvement, du fait que c'est irremplaçable, la matière première, c'est le dehors, c'est le tag, c'est le graffiti. Mais pourtant, il y a quelque chose dans les objets mêmes qui porte cette même énergie, Fuzzy.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est selon la personne, selon son envie, va le traduire d'une manière différente. Nous, on essaye donc de la mettre en valeur à travers donc les codes du graphisme classique et peut-être du livre d'art. Et d'autres vont avoir une démarche beaucoup plus brute. Et ça va être d'autant aussi intéressant. C'est-à-dire qu'une
des trop belles éditions photocopiées, reliées super à l'arrache. Et d'un seul coup, il y a aussi cette énergie-là de l'underground qui ressurgit par l'objet.
Tout à fait. Donc, j'ai souvent discuté dans le forum que j'anime d'ailleurs avec le podcast de Fuzzy. On a un forum et les gens des fois se questionnent sur, mais moi je préfère quand il y a des petites photos en carré partout et tout, pourquoi vous laissez tant d'espace blanc? Et au début j'essayais d'expliquer ma démarche et puis au bout d'un moment je me dis, mais si tu aimes ça, qui suis-je pour te juger par rapport à ça? Si tu aimes ça de cette manière-là, moi je l'aime peut-être de cette manière-là parce que différentes raisons. Voilà, chacun le prend comme il veut. Et c'est ça qui sera intéressant dans le Graffiti Book Club. C'est que, justement, il y a des éditeurs de tout type. Il y a des gens qui vont venir avec des zines à graffer. Il y a des gens qui sont des graphistes suisses émérites qui sortent des choses qui sont complètement assez folles. Il y a vraiment de tout, que ce soit dans le contenu que dans la manière de le montrer.
Et alors, je sais qu'elles sont pour une part complète, mais il y aura aussi des tables rondes, des tables de discussion pour échanger sur ces pratiques éditoriales. Et on peut réserver. L'entrée est gratuite. Gardez plein de billets dans vos poches pour acheter plutôt des livres et des zines sur place. On va écouter la voix de Jérémy, libraire Album à Bordeaux. Il pose des questions concrètes de diffusion de ces livres-là.
Bonjour le Book Club, bonjour Fuzzy et bonjour Capdo. Je suis libraire dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Et dans mon cas, mais ça s'applique, je pense, plus ou moins à toutes les librairies spécialisées BD, les livres d'art, et particulièrement ceux consacrés au graffiti, ne sont généralement présents dans nos rayonnages que dans deux cas, soit par un travail de recherche et d'implantation de notre part spécifiquement, soit quand ils sont proposés dans les catalogues de nos représentants. Et de fait, ce seraient des livres qu'on aurait en petite quantité ou à l'unité et qu'on présenterait comme des raretés ou des pépites inclassables. Et je me demandais quel était votre point de vue d'artiste sur la mise en place de tels livres dans une librairie, qu'elle soit spécialisée ou non, et peut-être sur des ponts à créer entre le graffiti et la bande dessinée, par exemple.
Merci beaucoup, Jérémy, pour cette question très concrète qui nous intéresse. En effet, ce Graffiti Book Club, c'est une première initiative. Le fait de pouvoir retrouver comme ça, concentrer des maisons d'édition qui sont concernées par l'édition du tag et du graffiti. Aurélien Harmigny, Capdo, comment est-ce que vous pourriez répondre à Jérémy sur cet enjeu-là de diffusion?
Alors, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour prendre l'exemple de Brest, là où je suis actuellement, je suis venu avec un ami qui s'appelle Fabien Swingelot, qui fait les éditions Power Vision. Et typiquement, dès qu'on bouge dans une ville, on prend tout ce qu'on a en stock comme petit fanzine et en amont, on fait nos recherches sur les librairies indépendantes, etc. Et on y va comme des commerciaux des années 70, hein, on y va... De manière humaine, on va dire, ça ressemble à ce qu'on fait. On a pas envie de passer par des grands réseaux, des grands canaux de diffusion où économiquement on sera complètement pris à la gorge et ce sera diffusé de manière assez grand public. Et ça, je pense que ça trouvera pas son public. Par contre, effectivement, des librairies indépendantes, il en reste quelques-unes en France très intéressantes.
Mais concrètement, vous faites du dépôt-vente, par exemple?
Alors, c'est du dépôt-vente ou de l'achat direct, mais c'est sur des très très petites quantités. Par contre, c'est exactement comme c'est ce que je dis souvent par rapport aux réseaux sociaux ou autres. C'est pas forcément le nombre d'abonnés ou le nombre d'exemplaires. On est toujours sur des petites séries. Dans le graffiti, on a entre 200 et 500 exemplaires grand maximum. Mais c'est
quelle que soit la forme éditoriale, c'est-à-dire aussi bien des petites fanzines agrafées, pour reprendre ce que disait Fusy, que des livres de photos plus conséquents, c'est à peu près ce tirage-là.
Oui, ça dépasse rarement 500 exemplaires, hormis les livres qui se diffusent vraiment à échelle européenne, mais on est dans des chiffres assez faibles, ce qui paraissent assez faibles pour le monde éditorial peut-être, mais qui sont assez... Mais en fait, chaque livre reste chez la personne, entre guillemets. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas des livres qui vont beaucoup tourner, c'est vraiment des livres trésors qui vont être achetés parce que la personne a vraiment un coup de cœur, cherche ce truc-là ou tombe dessus. Et c'est des choses qui sont très... c'est pas du consommable, c'est quelque chose qui va rester dans la bibliothèque, qui va être considéré vraiment à sa juste valeur. Et c'est vraiment de l'édition... Toute la beauté de l'édition, quoi, de l'édition indépendante, c'est ça qui est intéressant.
Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça rejoint là aussi, puisqu'on essaye de réfléchir aujourd'hui à ce qu'il reste de cette esthétique et de ce mouvement et de cet art quand on le transpose du côté du livre et de l'édition. Mais par exemple, travailler sur des courts tirages, bah, ça rejoint le côté éphémère du tag qui peut être recouvert. Travailler sur la préciosité, sur des codes qu'il faut connaître, sur un peu un aspect collectionneur. Fusy, vous, par exemple, vous invitiez les auditeurs et auditrices de votre podcast à se présenter pas trop tard au Graffiti Book Club parce qu'il va y avoir des éditions qui vont être à petit tirage, il va y avoir des choses qui vont être exceptionnellement éditées à cette occasion, comme s'il y avait quelque chose de la rareté du tag qu'on va trouver qu'à tel endroit dans la ville, rareté de cette édition qu'on va trouver qu'à quelques exemplaires, ça se rejoint ?
Ça se rejoint totalement et c'est vraiment des éléments qui sont collector quand on sait que la personne va sortir 200 exemplaires. Et ben voilà, faut y être quand même, ouais. Spécialement pour des événements comme ça. Après, c'est aussi la beauté du truc, c'est que on reste dans l'indépendance. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi, et quand je dis on, c'est ce milieu du graffiti, cette communauté quelque part du graffiti, a réussi à se débrouiller, à faire les choses par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une des valeurs du graffiti. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à rentrer dans un dépôt parce qu'il y a des barbelés, tu vas trouver un moyen pour y rentrer parce que le maître
chien... Pareil pour le milieu d'édition.
C'est la même chose, c'est la débrouille. Mais à la fin, il y a tout un réseau qui se construit autour de ça. Les gens apprennent à comment communiquer. C'est vraiment on est tous nouveaux là-dedans et on arrive avec ce qu'on a et on apprend et on développe comme ça. Mais tout ça en indépendance. J'entendais le libraire qui, quelque part, j'avais l'impression qu'il se sentait peut-être extérieur à tout ça. Comment on fait ? Ben en fait, peut-être sois curieux de savoir comment fonctionne ce mouvement et tu verras que tous les jours, il y a des choses qui sortent. Il suffit de communiquer maintenant.
Manière de prendre part, en réalité.
Quelque part. Ouais. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on nous a mis quelque part de côté. On a développé notre culture par nous-mêmes. Donc maintenant, si vous êtes intéressé, venez nous voir. Il y a énormément de richesses. Venez ce week-end, vous allez voir ce qui se passe. Non, mais en plus, sérieusement, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier de voir ça et que c'est mis parfois en valeur par des gens qui sont juste totalement hors notre monde et qui montrent leur vision de ce que c'est. La vraie vision de ce qu'est le graffiti aujourd'hui, que ça soit du graffiti sur métro, comme plein d'autres réflexions qui sont autour de ça, autour de l'architecture, autour de la poésie, autour de la photo, vous pourrez le retrouver dans des publications qui seront au Graffiti Book Club.
Justement, architecture et paysage, je voulais faire entendre un nouvel extrait des Princes du Dernier Wagon. On enjambe la glissière de sécurité et on s'engage dans la forêt. Pas celle que l'on voit dans les films ou à travers les vitres du TGV, plutôt le modèle familier aux banlieusards. Un amas de végétation jouxtant une autoroute, un centre commercial, une voie ferrée ou un parking, jonché de canettes de bière, de mégots, de capotes usagées et dissimulant la saleté de nos activités. Une nature rescapée du béton et rebaptisée coulée verte par des élus sans vergogne. Ce qu'il reste de verdure est crasseux, couvert d'une pollution poisseuse. Aux branches des arbres, frêles, pendent des sacs plastiques multicolores, siglés Intermarché ou Leclerc. La concurrence vulgaire entre les enseignes s'achève ici. À mesure que l'on s'éloigne de la route, le chemin disparaît. La végétation semble moins soumise, reprenant lentement le terrain perdu dans une réminiscence de sa gloire passée. Les ronces nous griffent les mains. Les branches zèbrent le passage pour mieux nous éborgner. Ce qui faisait penser à une attaque revancharde de la flore inspire maintenant un sentiment de sérénité. Le silence s'installe. La nature ne demande qu'à nous oublier et à prospérer. Je voulais lire cet extrait de votre texte, Stanislas Barreto, parce que dans toute cette profusion d'éditions dont on parle autour du tag et du graffiti, apparaissent aussi des paysages que vous décrivez ici, dans une végétation particulière, périphérique, très mêlée à l'urbanisation. Est-ce que ce monde éditorial, qui passe, on l'a dit, beaucoup par l'image, c'est aussi témoigner de certains endroits, urbains ou non urbains, qui sont pas ou peu regardés?
Tout à fait. En fait, on ouvre, en pratiquant le graffiti, on ouvre une porte sur la ville que personne n'utilise. C'est-à-dire que on voit ce qui est caché, ce qui est inutilisable, ce qui n'intéresse pas les gens. Et ça, ça ouvre plein de possibilités de réflexion esthétique, d'art même. Et il y a plein de gens qui s'en emparent. Actuellement, je travaille, vu que je vis à Los Angeles, je travaille sur justement la végétation qu'il y a autour des autoroutes, qui sont derrière les murs de protection, où se développe vraiment une végétation super intéressante qui grandit sur les murs. Et je prends juste en photo ces choses-là. J'ai commencé ça il y a un an. Mais par exemple, et ça, cette ouverture-là sur ces choses-là, me vient du graffiti, parce que je traînais là, parce que j'ai vu ça, et parce que ça m'a touché esthétiquement. En ce moment-là, par exemple, au Graffiti Book Club ce week-end, il va y avoir cet Allemand qui s'appelle Jens.
Je pensais à lui quand vous disiez mais ça, oui, qui ramasse incroyable. Les murs et qui a cartographié les mûriers dans les endroits où il allait taguer, quoi.
Même pas dans les endroits qu'il allait taguer. Lui, il perpétue la tradition des hobos, c'est-à-dire de ce qu'on, puisqu'on est au Book Club de Jack London, qui en a beaucoup parlé.
Clochard Céleste, ouais.
Voilà, tout à fait. De sauter donc dans des trains de marchandises pour se déplacer. Bon, lui, il parle d'une autre période, mais ça a été repris par toute une génération justement de hobos qui font ça pour se déplacer à travers l'Europe ou les États-Unis. Et lui, il fait ça. Et en attendant ces trains de marchandises qui vont se déplacer, il est dans des dépôts et il voit des murs, il s'en nourrit, il note et il revient pour créer des confitures avec ces murs-là et il cartographie tout ça. Il va nous en parler samedi après-midi et faire une dégustation de ces confitures qu'il a créées avec tout ce contexte qu'il y a autour.
Aurélien Armini, très rapidement, est-ce que réfléchir à Brest sous les bombes et à la place du tag et du graffiti, c'est être en mesure de regarder autrement, par une autre lorgnette, la ville de Brest ?
Oui, tout à fait. C'est ça qui est très intéressant avec le graffiti, fusil souligné, même avec les nombreux exemples que vous avez donnés. Un graffeur, il s'aventure. C'est un aspect très important de ce qu'il fait. Il est dehors, il est à l'extérieur. Il y a un côté très ludique aussi.
C'est l'arpentage, quoi.
Ouais, c'est l'arpentage, c'est Rimbaud, c'est marcher, c'est découvrir ce qui se passe. Et c'est regarder là où les autres regardent pas. Donc on monte sur les toits, on descend dans les souterrains, on va dans les interstices, on va dans les entrevilles, là où le kidam, entre guillemets, ne va pas beaucoup. Et puis on rencontre forcément des populations qui sont mises en marge, des SDF, des réfugiés, etc. Et c'est tout un nouveau monde, entre guillemets, c'est tout le monde internet qui s'ouvre à nous, et c'est des choses sur lesquelles on a toujours eu un regard très, très acéré en tant que graffeur, parce qu'on fait partie, entre guillemets, de ces gens-là. Au final, on est des marginaux, on est des personnages de la ville.
Et donc, c'est un monde qui, sous prétexte de montrer le tag et le graffiti, transpire et apparaît aussi dans toutes ces éditions qu'on a évoquées depuis le début. Le Book Club continue. Et c'est l'heure de l'agenda du Book Club. Donc on a parlé de ces deux grands événements. On le mettra sur franceculture.fr à la page de l'émission, l'exposition Brest sous les bombes qui s'ouvre dès demain à Brest, et le Graffiti Book Club qui a lieu le 7 et 8 mars dans le cadre de la manifestation Freestyle au parc de la Villette à Paris. Et puis si on regarde du côté de la Bretagne, je voulais aussi mentionner le festival Rue des Livres. Cette fois c'est à Rennes, ce sera le week-end du 14 et du 15 mars, mais vous pouvez faire une tournée où vous faites tout. C'est la 18e édition et ils ont choisi le très beau thème de l'amitié pour guider leur choix de programmation cette année. Des rencontres, des lectures, des signatures, des événements. Plus de 150 autoristes et illustratrices seront invités sur le festival. Allez leur rendre visite et regardez leur programmation sur le site internet de Rue des Livres à Rennes.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Peut-être que vous connaissez du coup le grand jeu des pages musicales, c'est la fin du Book Club tous les jours. Fusil, on cherche de la musique dans les livres. On a joué à chercher de la musique dans Les Princes du Dernier Wagon. Vous nous avez même un tout petit peu aidé. On se quitte donc avec un extrait de votre livre. On s'amuse. Flash à 80 km/h. On a 1000 fois traversé cette rue étroite. Le radar vient sans doute d'être installé. Repasse, tu peux mieux faire. Virage au frein à main qui projette nos corps contre les portières. Je n'offre plus de résistance. Je me laisse guider par le mouvement, les vannes, la vitesse. 92 km/h. La musique mange mon crâne. Mes épaules se détendent dans la ligne droite. Mes yeux se perdent dans la lumière jaune du plafonnier. Puis je sens le déchirement des pneus sur le bitume. Le frein à main quasi arraché par Gilles, assis à la place du mort. 125 km/h s'affiche en chiffres lumineux dans l'obscurité. La peur s'immisce dans le brouillard de la fonce des. Je suis bien parmi les hurlements, au milieu de la folie et des excès. Apaisé. Un dernier flash et on déchire le périph' vers chez nous. Fenêtre ouverte, musique à fond, on défonce le silence, cerné par un gâchis de reflets orangés et verdâtres. L'enseigne lumineuse de la station-service clignote, racoleuse.
Qui seront les mères de demain? Wesh wesh cousin, moi c'est quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume. J'en plus chico sur le côté, qui boite balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours devoir rien au bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand on est plus quoi ça marchait dessus. Pour nos sœurs, nous serons les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume. Ton plus chico sur le côté, qui boite pas la frais avec un nez qui se bat en couille. Toujours devant caillant en brouille.
Quand je vous ai demandé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à fond dans cette voiture R5 issue d'une scène de votre livre, vous m'avez dit pour ceux de la mafia Quinfri. Pourquoi ce titre-là en particulier, Stanislas Barreto? Vous n'avez pas hésité?
Bah, honnêtement, la transition elle marchait trop bien. On a pu l'entendre tout de suite. C'est voilà, on est dans l'ambiance. C'est ça, c'était ça. Et c'est intéressant parce que chacun l'a vécu d'une manière différente. Moi, je l'ai vécu de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité et que tout le monde le voit comme ça. Et c'est ça aussi qui montre la complexité et ce qu'est aussi la manière de vivre le graffiti. Peut-être que ça montre quand même une manière peut-être intense de vivre ça, une manière peut-être qui existe et qui pour moi est essentielle pour tout le reste. C'est ça qui fait que tout le reste existe, les belles choses qui décorent vos appartements ou les choses colorées qui plaisent à tout le monde. La base, c'est quand même ça, c'est quand même le tag et c'est cette énergie. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer ce Graffiti Book Club. Donc on mettra toutes les références sur le site internet du Book Club de France Culture. Merci aussi Aurélien Armini, Dicabdo, pour avoir été avec nous et avoir parlé aussi de Brest sous les bombes. Rapidement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir au CAC Passerelle?
Alors, c'est une exposition qui retrace 20 ans d'activité graffiti dans la ville de Brest, de 85 à 2005. Et une petite partie de l'exposition aérosol qui retrace l'histoire du graffiti en France, politique, revendicatif, etc.
Et vous serez probablement de passage au Graffiti Book Club à la Villette, j'imagine quand même, pour venir voir les copains.
Ah bah je tiens une table avec mes amis du nord de Lille et j'anime une petite conférence sur la poésie et le sensible dans le graffiti.
Magnifique, merci beaucoup. Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon à la réalisation, Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement à Noé Margas. On peut continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club de France Culture.